France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Richard Ford. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera du film de Romain Gavras, Athéna, disponible dès demain sur Netflix. 19h45, Affaires en cours. Depuis l'épidémie, les salles de cinéma peinent à retrouver leur public. Jean-Michel Dian exposera à Marie Sorbier les raisons de ce désamour. 19h50, Affaires à suivre en compagnie ce soir du cinéaste Laurent Canté. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron, avec Audrey Guélil et Anthony Thomasson à la prise de son. Bonsoir, Richard Ford.
Nice to see you. It's a great pleasure.
Le plaisir est tout pour moi de vous recevoir alors que vous êtes l'un des invités d'honneur du Festival America à Vincennes. Vous êtes un habitué de cette manifestation. Cette habitude me fournit la belle opportunité de vous recevoir. Et Pascal Fougère, qui vous parle à l'oreille, va traduire notre entretien ce soir. Merci à elle. Alors dire que vous êtes né à Jackson, Mississippi, Richard Ford, que vous avez essentiellement grandi dans l'Arkansas. Vous êtes fils unique. Vous dites que vos parents ne lisaient pas, n'allaient pas au cinéma. Qu'est-ce qui vous a fait aller, vous, vers les livres?
Well, what drew me was reading.
C'est la lecture, en fait, qui m'a attiré vers les livres. Je suis dyslexique.
And so when I learned to read, which was late,
quand j'ai appris à lire tard, je lisais lentement. Mais en fait, lire lentement n'est pas quelque chose de mauvais, en fait, si vous allez jusqu'au bout des livres. Ce qu'on apprend quand on lit lentement, c'est toutes ces qualités non cognitives, en fait, du langage, quelle tête ça a sur la page, comment est-ce que les mots résonnent dans votre oreille, quel ressenti vous avez des mots quand vous les prononcez. Et pour moi, c'était, enfin, tout ça, c'est fait partie des plaisirs de la lecture. Et je lisais de la bonne littérature, parce que c'était la seule chose pour laquelle j'avais du temps, Faulkner, Proust même, en traduction. Et je me suis dit, mais est-ce que ça ne serait pas formidable d'arriver à utiliser le langage de cette manière-là pour donner aussi du plaisir à quelqu'un d'autre?
Toujours dans votre jeunesse, Richard Ford, l'un des événements les plus importants de votre vie a lieu pendant cette adolescence. Vous avez 16 ans quand votre père, Parker Ford, meurt. Vous avez publié en 2017 un livre intitulé « Entre eux, Between Them, Remembering My Parents », composé d'un texte sur votre mère qui avait été écrit au lendemain de sa mort en 1981 et un autre sur votre père. Celui sur votre père, vous avez mis 55 ans avant de pouvoir l'écrire, 55 ans après son décès. Vous écrivez dans la postface de ce livre « L'absence nous encercle, nous infiltre ». Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre l'absence de votre père et le fait que vous soyez devenu écrivain? Est-ce qu'écrire de la fiction, c'est aussi compenser cette absence?
Well, I know one thing for sure.
Alors, il y a une chose que je sais avec certitude, c'est que si mon père était resté vivant, il ne m'aurait jamais laissé être écrivain. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. J'aurais dû perdre beaucoup de mon temps en me rébellant et à me battre contre mon père, hein, que j'adorais. Vraiment. Mais c'était un homme plutôt humble de la campagne qui ne connaissait rien aux livres. Et donc je crois que je n'aurais jamais atteint le stade d'imaginer ça comme une possibilité. Hein. Il m'aurait poussé vers des boulots, en fait, puisqu'évidemment tout ça s'est arrivé au moment de la guerre du Vietnam. Et je pense, c'est l'autre côté que je vois dans votre question, c'est que la perte de mon père a créé, alors ça peut paraître idiot, mais a créé un espace dans ma vie où il est devenu possible de mettre la langue. Et évidemment, une partie de cette langue concerne les pères et les fils, mais une autre partie parle des mères et de leurs enfants, une autre partie parle des hommes et des femmes. Mais ça a été effectivement une possibilité, en fait. Hein. Et c'était très étrange parce que, comme mon père est mort, vous l'avez dit, j'avais 16 ans, mais ça m'a donné cette possibilité-là, cette opportunité, mais qui avait l'air non convenable, en fait. Hein. Quand votre père meurt, ça ne devrait pas ouvrir des possibles, ça devrait juste être une grande tristesse. C'en était une, bien sûr. Mais quand même, il y avait cette opportunité, il faut le reconnaître.
Alors dans cette formation sensible, beaucoup de lectures, vous l'avez dit, et notamment Faulkner, Absalon, Absalon. Et puis, la rencontre avec Eudora Welty, née comme vous à Jackson, Mississippi, une romancière, une novelliste, une photographe. On connaît assez mal hein, son travail en France. Plusieurs de ses livres ont été publiés, traduits chez Flammarion. En quoi Eudora Welty vous a marqué, Richard Ford?
Alors, elle m'a marqué de manière très subtile et de manière très insubtile, on va dire. Elle vivait à 3 ou 4 pâtés de maison, hein. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que ça signifiait d'être écrivain. Je savais juste qu'elle était écrivaine. Et quelquefois, je la voyais à l'épicerie où j'allais avec ma mère. Et ce que ça m'a permis, de manière assez subliminal, c'était un sens de l'autorisation, c'est-à-dire que dans notre petite communauté blanche assez bigote, hein, il y avait la possibilité d'écrire parce qu'il y avait cette incroyable et formidable écrivaine qui vivait à 3 pâtés de maison. Alors, elle ne m'a pas influencée alors de manière personnelle, elle l'a fait plus tard, je crois, mais c'était vraiment cette idée que dans la communauté, on pouvait être écrivain au lieu d'être banquier, avocat ou toute autre profession. Hein. Et donc, ça comptait pas pour rien. Hein. Et elle a vécu, en fait, suffisamment longtemps pour que je lui dise. Elle avait trouvé ça drôle, d'ailleurs. Et elle se pensait pas du tout comme un modèle pour qui que ce soit. Hein. Elle a vécu avec sa mère jusqu'à la mort de celle-ci. Elle ne s'est jamais mariée. Elle était assez âgée quand sa maman est décédée. Et elle avait d'elle-même une vision d'une grande simplicité, ce qui était aussi quelque chose de très aidant, parce que effectivement, si vous avez quelqu'un qui est un lecteur, voilà, et que vous ne vous pensez pas comme une célébrité, je crois que c'est formidable si vous avez des lecteurs.
Un premier moment musical choisi par vous, Richard Ford. Vous souhaitiez écouter chanter Johnny Hartman. On va l'entendre ici, en bonne compagnie, celle de John Coltrane pour Autumn Serenade.
Comes autumn with her serenade, melodies, the sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars were clinging to an autumn sky. Love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade.
Johnny Hartman avec beaucoup de recueillement. Richard Ford, quelques mots sur lui.
About myself, really, because I think now I'm old enough to hear jazz.
Des choses sur moi. Je crois que maintenant je suis assez vieux pour écouter du jazz. C'est un peu comme lire Henry James. Il faut atteindre un certain âge pour écouter cette musique.
I don't think there's anything I can say about Johnny Hartman.
Je crois que il y a pas grand chose à dire sur Johnny Hartman. Essayer de l'écouter, comme on le disait en fait. Il est tellement jeune en fait quand il fait cet enregistrement. Il a une vingtaine d'années et en fait, il n'a pas atteint. Il a atteint juste la moitié de ses 30 ans donc.
Alors revenons au jeune Richard Ford. Vous avez 32 ans quand vous publiez votre premier livre, Une mort secrète, A Piece of My Heart. Mais pour être un peu dans les questions concrètes, est-ce qu'au fil des années, vous avez mis au point une méthode de travail concernant les romans ? Est-ce qu'un livre se construit en suivant les mêmes étapes pour vous ? Parce que je sais que, par exemple, vous prenez beaucoup de notes. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces notes ?
Quand j'ai écrit en fait Une mort secrète, quand on commence à écrire des romans, on ne sait pas comment faire. Donc mes deux premiers livres, en fait, c'était des bons livres. En fait, ils ont une vie, ils sont toujours disponibles. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'arrivais pas à mettre dans les livres tout ce que je connaissais. Et je crois que c'est quelque chose qui est typique des jeunes écrivains. Je pensais que les livres, en fait, n'étaient pas suffisamment vastes pour contenir, en fait, ce mélange, en fait, de sérieux et d'humour dont je me sentais capable. J'ai commencé à travailler sur une manière très draconienne d'organisation de la matière brute, en fait, de l'écriture, le livre du livre, comme ma femme les nomme, pour arriver à écrire le livre final, je vais écrire 500 pages en fait et revenir dessus constamment. Je vais revenir une fois par semaine sur ce livre pendant à peu près 3 ans, de manière à rien manquer en fait. Pour ne pas non plus rater quelque chose qui devrait être évité. Et c'est la manière dont j'écris depuis 1982, soit plus de 40 ans.
Bon, allez. 40. Alors, peut-être justement vous faire entendre maintenant Milan Kundera, en 1984, à peu près à ce même moment, sur France Culture, parlait de la construction d'un roman.
La construction, l'architecture, c'est une des beautés de toute œuvre d'art. Non seulement d'un tableau, non seulement d'une maison, mais aussi d'un roman. Et c'est aussi une autre chose qui me tient beaucoup au cœur, c'est-à-dire que vous voyez un roman comme si c'était un château ou une maison ou un palais, c'est-à-dire avec une construction qui est claire et qui est en elle-même belle. Mais si vous voulez donner cette beauté de la construction à un roman et en même temps ne pas perdre la complexité des choses dont vous racontez, alors il s'impose la nécessité d'être extrêmement économe dans vos moyens, c'est-à-dire créer un style très très dépouillé, ce qui n'est pas facile. C'est-à-dire, pendant, je crois que les meilleurs moments de mon travail sur le roman, c'était les moments quand j'ai éliminé les choses, quand je me débarrassais des choses qui étaient superflues. C'était toujours les moments quand j'ai progressé le plus, quand j'ai fait vraiment un bond en avant, pour citer Mao Zedong, n'est-ce pas? Parce que le sujet est tellement complexe que j'avais trop de motifs, trop de thèmes, trop de digressions, trop de descriptions. Et c'est-à-dire le travail sur le roman était toujours accompagné par les éliminations, par les coupures très très radicales pour arriver à l'essentiel, pour garder l'essentiel, pour se concentrer sur l'essentiel, pour rester sur l'essentiel, pour commencer tout de suite par l'essentiel.
Et Pascal Fougère a assuré la traduction pendant ce temps à Richard Ford. L'essentiel, rester sur l'essentiel, commencer tout de suite par l'essentiel. Comment est-ce que vous entendez, Richard Ford, ce que vient de dire Milan Kundera?
Well, I'm glad for him.
Je suis contente pour lui.
I have great respect for
J'ai
what
beaucoup
he said.
De respect pour ce qu'il dit là.
In preparing to write a novel, or
je ne fais pas les choses en... Comment dire, je ne rentre pas vraiment dans cette préparation. Je ne pense pas que mon travail préparatoire doive être vendu à une quelconque personne. Il dit « vous » ou « on ». Mais moi, je dirais « je », en fait. C'est-à-dire que ça marche pour lui, mais ça peut peut-être ne pas marcher pour tout le monde. J'adore les livres de Kundera. Trouver ce qui est le plus important, enlever des choses. Je pense que sans doute, on fait tout ça. On a le sentiment qu'on comprend tout. Ruskin a dit que la composition, c'est l'arrangement de choses qui ne sont pas égales. Donc, au début de la vie d'un livre, en tout cas, moi, quand je suis au début d'un livre, je suis ma règle, je mets des choses ensemble qui ont l'air de vouloir aller ensemble, mais une fois qu'on a cette espèce de gros livre en face de soi, qu'on a passé 2 ans à écrire, on se dit que peut-être là, il y a un peu trop de choses, peut-être que que je dois le dire là un peu plus simplement. Et pour moi, en tout cas, c'est, il s'agit de, d'apprendre ce dont parle le livre. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que le livre devienne ce que vous voulez qu'il soit. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit découvrir. Quelquefois, les gens parlent de la sculpture en disant que la sculpture, c'est ce qui reste une fois que vous avez tout enlevé, pratiquement. Et ce n'est pas exactement comme ça que je pense les choses. Je pense que tout est un artifice, on fait les choses. Et je respecte en fait beaucoup Kundera. Je pense qu'il a raison parce qu'il a ces livres formidables qu'il a écrits, mais je ne veux pas nécessairement appliquer cette méthode-là.
Alors, dans la méthode Richard Ford, et dans cette préparation, à quel moment est-ce que les personnages apparaissent, prennent vie? Je ne sais pas comment le dire.
When do they actually come to life?
Well, they don't come to life ever.
Alors, je dirais que non, ils prennent jamais vie, en fait. Ils restent toujours, en fait, des personnages de mots. Hein. Je crois à ces personnages autant que je veux que mes lecteurs y croient. Parce qu'évidemment, avec un changement de mot, un personnage peut, qui était un homme peut devenir une femme, peut changer de race. Et donc, les personnages, ils sont intimement liés à ce qu'est le livre. C'est formidable parce qu'on voit ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Hein. Et si ça ne marche pas, vous pouvez changer les choses. C'est très facile. Donc, pour moi, je dirais que les personnages sont aussi près d'une vie propre lorsque je peux écrire ce qu'ils disent, pas lorsque je peux écrire ce à quoi ils ressemblent. En fait, je ne suis pas très bon pour faire des descriptions. En revanche, je suis bien meilleur pour les dialogues. Hein. Et là, quand j'arrive à écrire ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, je crois que pour moi, c'est les constituants, en fait, de ce qu'est un être humain. Un être humain, c'est la somme de ce qu'il dit et ce qu'il pense. Et c'est à ce moment-là que, pour moi, ils prennent une certaine essence, une certaine vie propre. Hein. Voilà, personne ne fait rien à part moi, en fait. Hein. C'est moi qui fais monter la sauce, en fait.
Il y a quand même un personnage particulier qu'il faut qu'on évoque, c'est Frank Bascombe. Parce qu'en l'espace d'une trentaine d'années, vous avez écrit 4 livres dont il est le personnage principal, Un week-end dans le Michigan, Indépendance, L'état des lieux, En toute franchise. Alors, dans L'état des lieux, c'était soi-disant le dernier volet d'une trilogie romanesque, mais En toute franchise est arrivé, on voyait le retour de Frank Bascombe dans les 4 nouvelles de ce livre-là. On l'a connu journaliste sportif, il est devenu agent immobilier, on l'avait retrouvé avec un cancer de la prostate. Maintenant, la dernière fois, on l'a retrouvé à la retraite. Ce personnage-là, quand même, qui a une place particulière pour vous, Richard Ford, c'est une sorte de terre glaise très très malléable qui vous permet de faire passer à travers lui beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. C'est à ça que ça sert, un personnage qu'on retrouve.
Everything I say about this will be wrong.
Alors, tout ce que je pourrais dire à propos de ce personnage, de cette récurrence, serait faux.
Frank Bascombe for me, and I've just finished
Bascombe,
another book.
Et je viens de finir un autre livre où il est présent.
It's an instrumentation of language.
C'est une instrumentation du langage.
Negotiate the world. Not for myself.
Je négocie en fait avec le monde, pas pour moi, c'est pas moi. Moi, Richard Ford, Je navigue dans le monde de manière très différente, en fait. Hein? Quand on est d'accord, lui et moi, je pense qu'à chaque fois que je devrais être meilleur que je ne le suis en réalité. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de moi. T.S. Eliot parlait donc du fait, quand on est écrivain, de sortir de soi, de savoir prendre une distance. Et donc là, c'est un artifice fait de mots qui me permet, en fait, de circuler dans le monde autour de moi, de m'accommoder du monde autour de moi. Dans ma vie réelle, je suis peut-être différent, mais sur la page, c'est comme ça que je le fais. Et je dirais avec franchise que c'est un véritable luxe de pouvoir faire ça. Il y a des gens, voilà, vous pouvez mettre dans ce personnage des mots que vous ne croyez pas, des mots que vous ne prononceriez pas parce qu'ils ne sont pas exactement suffisamment poli ou correct, hein. Voilà, parce que de toute façon, ça ne fera jamais de mal à personne. La seule chose qui puisse se passer, c'est que le lecteur referme le livre si ça ne lui plaît pas.
Alors, ce qui est vrai concernant la description du monde, c'est que dans les livres avec Frank Bascombe, singulièrement, c'est le cas dans d'autres, mais moi j'ai l'impression qu'il s'agit un peu de peindre le portrait de l'Amérique, ça nous permet d'en saisir certaines évolutions. Moi, j'ai le sentiment, en lisant ces livres-là, de mieux connaître ou peut-être de mieux comprendre certaines particularités de votre pays. En tant qu'artiste, Richard Ford, votre sensibilité au monde, elle nous éclaire, nous les lecteurs, sur le monde dans lequel nous vivons. Ce sont des livres quand même très politiques.
Un des mystères et une des qualités formidables de la littérature, c'est que j'écris un livre et je pense que je comprends ce qu'il dit et je veux que le lecteur, que vous le compreniez tel que moi je le comprenais, mais inévitablement vous allez le comprendre différemment. Alors j'espère pas trop, mais ça ne fait aucun doute en fait que la matière brute de ces livre, effectivement, est une matière que je tire de ma vie aux États-Unis. Je ne sais pas si j'essaie de dépeindre l'Amérique ou si j'essaie juste de l'utiliser. Hein. Considérant ma personnalité, je pense que je suis sans doute en train d'utiliser davantage tous ces éléments. Et donc, ça permet d'avoir une espèce d'image, une espèce de photographie. Mais ce qui m'intéresse principalement, c'est que font en fait, ce que font les personnages dans la toile de fond que je donne. Hein. Et voilà, ce qui se passe, les rues, les autoroutes, tout ça, en fait, hein, c'est vraiment une toile de fond. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que font, en fait, les personnages qui vont être au premier plan, et j'espère que ça fera plus de sens que si j'essayais de dépeindre l'Amérique. J'ai également appris, au cours des années, ceci dit, que ce que les gens font dans les moments intimes de leur vie est effectivement lié à ce qui se passe sur le vaste théâtre du pays, hein, où ils vivent. Et une fois que je sais ça, de ce qui se passe dans mon pays, je peux pas effectivement l'ignorer. Et une des choses dysfonctionnelles dans la vie politique actuelle de l'Amérique, c'est comment, au niveau de la vie, nous vivons. Et on a l'impression que la manière dont les gens vivent semble de plus en plus déconnectée de la manière dont les hommes politiques gèrent le pays. L'administre. Hein. Et donc, quelle que soit la tendance, en fait, hein, et c'est très troublant, en fait, hein, parce que tout ça, la vie normale n'a rien à voir avec le cours de la vie politique et le cours de l'évolution, en fait, l'évolution du pays. Et en Amérique, pense que les romanciers savent quoi que ce soit sur la politique. Hein. hein. Voilà, on va dire que effectivement, les États-Unis à ce niveau-là, c'est un peu le Moyen-Âge, hein, contrairement à ce qu'on peut penser en France des écrivains.
Bon, mais il y a quand même de la belle musique qui vient de là. Deuxième choix quand même dans cette émission, on va écouter Chet Baker.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Évidemment, le temps passe très vite dans la très bonne compagnie de Richard Ford. On va bientôt être à la fin déjà de cet entretien, mais j'ai plein de questions à vous poser que je garde pour votre prochain passage au Festival America, parce que vous aimez beaucoup ce festival. Vous allez faire beaucoup, beaucoup de rencontres dans les prochains jours. Vous aimez être à America, Richard Ford?
Oui, j'adore ce festival et j'espère qu'effectivement tous les auditeurs vont se rendre en masse à Vincennes. C'est une véritable célébration de l'écriture américaine et française aussi. Et de manière tout à fait subjective, je pense que c'est une célébration de l'imagination, de l'imaginaire, et voilà, qui montre qu'il y a pas seulement une manière de faire les choses. C'est une manière de prendre des risques, montrer que les actes ont toujours des conséquences. Hein. Et la vie politique de là où je vis fait que les gens pensent toujours qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Mais quand on a écrit un livre, c'est vous qui l'avez fait. Donc, quelles que soient les fautes qui s'y trouvent, voilà, vous êtes responsable. Et je crois que c'est quelque chose qui est important de montrer, en fait, aux jeunes que la responsabilité existe. Hein. Et voilà, parce qu'il y a tous ces choix qui sont là. Et le Festival America, c'est une célébration de ça aussi, la responsabilité. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, très festif, mais au fond, c'est quelque chose de très sérieux.
Alors, vous avez beaucoup de rencontres, de débats sur des thèmes les plus variés. Richard Ford, vous vous préparez pour ces débats ?
Yes, I've prepared for the last 50 years.
Oui, oui, bien sûr. Ça fait 50 ans que je me prépare, en fait, tout le temps pour toutes ces rencontres.
The themes, the subjects are all extremely French.
Et je dirais que voilà, les sujets, non, les rencontres sont tous très, très français.
Living without regret.
Et voilà, vivre sans regret.
I don't know what to say about that.
Je reste sans voix face à une question comme ça.
Alors moi j'ai peut-être une forme de réponse, ce sera une dernière question à propos de, en écho aussi à la vie de Frank Bascomb. Être capable de dire je t'aime, Richard Ford, c'est la frontière peut-être entre une vie vraiment ratée et une vie réussie. Ça peut être un regret de ne jamais avoir dit je t'aime.
That sounds too generalized to
me. Pour moi c'est trop général, en fait, cette manière de dire les choses.
I don't know the answer to that. That's,
je ne connais pas la réponse à cette question-là. Il y a sans doute des gens dans le monde qui ont vécu des vies sans amour, mais qui, à la fin de leur vie, se disent « Voilà, j'ai bien vécu, ce ne sera pas moi. »
Vous avez été beaucoup aimé.
Well, you loved a lot.
Oh, I was adored as
oui,
a, as a
j'ai
child.
Été adoré quand j'étais enfant.
My parents were older when they had me.
Mes parents étaient un peu âgés quand ils m'ont eu. J'étais fils unique.
They loved me as hard as you can love
someone. Et ils m'ont adoré autant que possible. You know, hein, vraiment,
I have no business being a novelist.
Et je dirais que voilà, c'est pas bien difficile en fait d'être un romancier.
I didn't hate
ça.
My parents.
Voilà. Et effectivement, je ne haïssais pas mes parents. Donc voilà.
Merci infiniment, Richard Ford, d'avoir été ce soir mon invité. Merci à vous.
It's a great pleasure. I'm great to see you.
Et vos livres sont pour la plupart publiés aux éditions de l'Olivier, dans des traductions signées José Camoun, Suzanne Mailloux, Brice Mathieu-San et quelques autres. Et on trouve aussi la plupart de vos livres en poche aux éditions Point. Et puis rappelons que vous serez beaucoup au Festival America à Vincennes, un programme très chargé, débat, entretien, toutes les informations sur la page internet d'Affaires Culturelles. Et il me reste aussi à remercier Pascal Fougère qui a assuré la traduction de notre entretien.
France Culture, Affaires Culturelles, Arnaud Laporte.
C'est maintenant l'heure d'Affaires Critiques avec vous, Lucille Comeau, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Vous avez vu Athéna, un film qui sort demain directement sur Netflix.
Athéna, oui, du français Romain Gavras. Le film a été plutôt bien accueilli à la Mostra de Venise où il a été projeté. Les affiches ont fleuri partout dans la ville annonçant sa sortie. Il a été soutenu et admiré apparemment aussi bien par le rappeur Jay-Z que par Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart. Vaste spectre de crédibilité qui me laisse pantoise, voire même qui me fait tomber de ma chaise. Avec quels yeux Jay-Z et Edoui ont-ils regardé Athéna? Ont-ils été aveuglés et par quoi? Car ce film est à mon avis malhonnête et mauvais dans tous les sens du terme. Alors qu'est-ce qu'Athéna ? C'est une cité d'un quartier populaire qui s'embrase, filmée comme un gros péplum, composé de longs plans séquences dont la virtuosité affichée est bien davantage de la technicité, avec des fumigènes dans tous les sens, des plans au drone et une musique d'opéra lyrique et pompeuse. Romain Gavras, il s'est fait connaître en 2008 avec un clip ultra-violent où il filmait les méfaits d'une bande de jeunes. Et Athéna en est le prolongement, un gros clip, sorti sur plateforme, qui esthétise, c'est déjà pas de très bon goût, les suites d'une prétendue bavure policière. Alors c'est ça l'histoire, un jeune homme est mort, ses trois frères réagissent, le premier part en guerre, attaquant avec ses sbires un commissariat puis tenant la cité comme un fort. Le second militaire revenu du Mali tente d'apaiser le quartier. Et le troisième dealer, bien sûr, essaye surtout de préserver ses petites affaires. Apparemment, c'est une tragédie grecque. Mais cette structure hyper artificielle maintient difficilement l'intérêt. Ce qu'il maintient, à la rigueur, c'est le rythme et l'ultra-violence de combats de rue. Une représentation des banlieues qui, comme on le dit gentiment, pose question.
Mais on pense à vous écouter, Lucille, au débat qui entourait la sortie de Bac Nord, le film de Cédric Jiménez sur les quartiers nord donc de Marseille.
Alors oui et non. Disons qu'à côté d'Athéna, Bac Nord, c'est Marius et Jeannette. Gavras va encore plus loin dans la déshumanisation. La foule est constituée de deux troupeaux, les guerriers, tous en même survêtements, indistincts, et les civils, mamans en foulard et vieux musulmans perdus. Même les protagonistes, ce trio de frères, est sommairement élaboré. Apparemment, ces gens-là ne sont pas capables de parler, de se parler. On comprend à peine ce que disent les acteurs qui vocifèrent et hurlent des insultes en permanence. Un film qui maltraite ses personnages, en général, c'est le signe d'un problème éthique de représentation. Bac Nord, c'était un film policier. Filmé du point de vue de la police, ça ressemblait un peu à un tract pour un syndicat des forces de l'ordre, mais bon, on était prévenus. Athéna est incohérent. À la fois, il prétend une sorte d'abstraction, avec cette cité imaginaire, un truc vaguement dystopique de jeux vidéo, et en même temps, il fait signe vers le réel. Des lieux sont cités qui sont de vraies banlieues du 93, les discours politiques à la télé sont ceux qu'on entend régulièrement, les CRS sont des CRS, d'ailleurs apparemment des bataillons entiers de CRS se font chasser par des jeunes de banlieue, ah bon ? Cette incohérence formelle, elle est le signe, cher Jay-Z, cher Edoui, d'une profonde inconséquence politique, largement partagée cette inconséquence quand il s'agit de représenter la jeunesse pauvre et racisée de France. Je veux bien croire que Romain Gavras croit soutenir une forme d'insurrection nécessaire, j'ai même lu sur une couverture de magazine « Athéna, l'insurrection qui vient », en référence à un petit livre signé par le Comité Invisible, un collectif de la gauche insurrectionnaliste, mais son film fait l'inverse, il fait le service d'ordre. Il met en image un fantasme de la droite et de l'extrême droite, ce fameux ensauvagement. D'ailleurs, catastrophe absolue du scénario, on comprend vite que la pointe avancée de la révolte sociale, eh ben, c'est l'islamisme radical, incarné par un fou de Dieu revenu de Syrie. Je ne vous parle même pas du twist final qui vient, s'il en était besoin, pulvériser tous nos doutes en détruisant totalement la légitimité première de cette violence qui se déchaîne sur petit écran. Ce qui est sûr, c'est que Romain Gavras sait faire des clips et on n'est pas très loin du clip de campagne.
Vous savez que vous avez quand même presque envie de regarder.
Ah bah oui, non mais c'est le but.
On a envie de regarder pour voir ce qu'il en est.
Vous allez peut-être pas tenir très longtemps, mais bon, vous me direz.
Athéna de Romain Gavras, le film sortira donc demain sur Netflix. Et à propos de film, affaire en cours avec vous, Marie Sorbier, ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, Arnaud.
Puisque ce soir, vous revenez sur la crise que traversent actuellement les salles de cinéma.
Oui, car depuis le Covid, les cinémas peinent à retrouver leur public. L'étude du CNC, publiée en mai dernier, précise que 38% des personnes ont perdu l'habitude d'aller au cinéma depuis l'épidémie. 36% trouvent le billet trop cher, 26% préfèrent regarder des films sur d'autres supports et 23% disent manquer d'intérêt pour les films proposés. Alors pour comprendre les raisons de ce désenchantement, je suis allée rencontrer Jean-Michel Dian. Jean-Michel Dian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, spécialiste des politiques culturelles. Quand on prend connaissance de ces chiffres, le cinéma semble s'enliser dans une crise profonde. Comment expliquez-vous le désamour du public ?
Le désamour, il repose sur la période de l'épidémie, sur le Covid. C'est-à-dire qu'au fond, les gens, évidemment, on est tous privés de cinéma. Et quand on a pu y retourner, c'était avec des masques. Et puis, il y a eu, à un moment donné, les gens sentaient bien qu'il y avait un problème du côté du cinéma. Tout simplement parce que l'installation de ces multiplexes, qui au départ devait évidemment, mais ça c'est heureusement c'était l'ambition de Gaumont, de Pathé ou d'MK2 par exemple, c'était de donner un écrin magique au cinéma. La réalité, c'est que c'est pas du tout un écrin. C'est vraiment un hangar avec des distributeurs de tickets, avec une contrainte sécuritaire absolument tatillonne. Et puis surtout, bon, c'est aussi une grande épicerie, hein, on y vend à peu près tout. Et puis, dernière chose qui commençait déjà avant le Covid, mais après c'était encore plus flagrant, c'était d'avoir à subir la double peine, comme je dis, c'est-à-dire que 20 minutes de tunnel de publicité avant un film, pour 1h30 de cinéma, quand il y a cinéma, parce qu'il n'y a pas toujours cinéma, il y a des films. Et tout ça, je crois que c'est au fond un souci que l'industrie culturelle, Malraux l'avait déjà dit dans les années 60, l'industrie du cinéma est confronté à cela.
Mais pensez-vous que c'est parce que les films proposés ne sont plus à la hauteur de nos imaginaires ou de nos sensibilités que les spectateurs renoncent, presque las de trop d'images vides finalement ?
Il y a probablement une absence de créativité nouvelle dans le langage du cinéma. Jean-Luc Godard, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, l'avait dit et répété, mais pas seulement. Truffaut l'avait dit sur beaucoup de cinéastes, c'est-à-dire on ne les entend pas. Ce qu'il faut entendre dans le cinéma, c'est le public. C'est lui qui fait du bouche à oreille, c'est lui qui organise le succès ou pas d'un film. C'est pas forcément la critique, c'est pas forcément les journaux. Et donc, donner une chance à des vrais films, dans l'appareil économique du cinéma industriel, ça ne marche pas. Là, on l'a vu récemment avec un certain nombre de films. Je pense au film Bhoutan qui s'appelle L'école au bout du monde. Voilà un petit... Heureusement que les salles indépendantes ont récupéré le film à Paris et en province pour essayer de le faire toucher un public bien particulier. Mais la réalité, c'est que ces films-là qui sont beaux, très exigeants, eh ben, ils n'ont pas leur place dans les grandes salles. C'est absolument pas à l'ordre du jour.
Parce qu'on a, vous venez de le dire, mais on a une spécificité quand même en France. C'est cinéma indépendant, c'est salles d'art et d'essai. Là, il se passe quelque chose, cinématographiquement parlant.
Ah, évidemment, là, ce sont des cinémas, il y en a partout en France. Ce sont des gens qui n'ont pas le même état d'esprit. Ceux qui gèrent ça, c'est des entrepreneurs, des artisans. Ils ne sont pas dans une logique purement commerciale. Je ne dis pas qu'il faut exclure le commerce. Il faut bien que tout le monde vive. Mais la réalité, c'est quand vous allez voir un film cubain de 1966 qui s'appelle « La mort du bureaucrate », par exemple, eh bien, vous n'avez pas 20 minutes de pub. Vous n'avez pas de pop-corn à côté. Vous avez la possibilité, ça c'est énorme, de rentrer dans une convivialité cinématographique, discuter avec les gens. Il y a un état d'esprit
oui,
totalement
de voir
différent.
Ensemble quelque chose.
Ouais, de partager. Et on est presque, comme disait Edgar Morin quand il parlait à Jean Rouch dans les années 50 sur la question du cinéma vérité, il disait tout simplement, on est là pour se faire plaisir, mais on est là pour communier. Il faut absolument que le cinéma nous provoque un peu de l'intérieur. Il faut qu'on soit bousculé. Il faut qu'on revienne et qu'on sorte de ces salles en ne pensant plus du tout au coup du billet, mais au plaisir vraiment sensuel, charnel, que procure le cinéma. C'est encore vrai, heureusement. Mais pour voir un bon film, il faut en voir combien. C'est ça la question. Et les gens, ils en ont un peu marre de ça.
Dans votre tribune publiée dans Le Monde dimanche dernier, vous écrivez que le cinéma est devenu le miroir aux alouettes de notre mal de vivre. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Quand on voit le flux général des sujets qui sont traités au cinéma, on a le sentiment qu'un certain public, pas tout le monde, essaie de trouver non pas une réponse à ces malaises, mais à la question de la société, tout simplement, mais du côté le plus inélégant. Et au fond, de passer des heures et des heures devant du cinéma, industriel je parle, c'est aussi se regarder soi-même et constater que le monde va très très mal. Dans le drame, il y a quelque chose qui peut parler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Parce qu'il y a une absence de forme.
Peut-être que la forme est désormais aboutie, on ne peut plus créer autre chose. Le formatage a priori des films, tout simplement parce que l'imprégnation, la consanguinité avec la publicité joue son rôle. Et au fond, on parle de l'image et du son, plus du cinéma. Mais beaucoup de cinéastes et de documentaristes y arrivent. Mais la réalité, c'est que ce format-là, on est en train de l'épuiser totalement. Il faut inventer une forme totalement différente. Ce que Netflix a réussi à faire avec ses séries, avec des ressorts dramaturgiques absolument féconds. Mais ça ne suffit pas. Il y a trop, en fait, d'images. Il y a beaucoup trop d'images et de sons, et beaucoup moins de cinéma. C'est l'image qui nous phagocyte. On n'est pas forcément au rendez-vous du cinéma. Donc il y a une confusion que 30% des gens ressortent en disant « j'en ai pas pour mon argent ». Et ce sont des spectateurs de cinéma. Ce sont des gens qui aiment les films. Il y a un problème quand même. Et Depardieu disait « mais maintenant, les images vont trop vite. Maintenant, le son est trop fort. Maintenant, on exige de nous d'aller toujours plus vite au cinéma ». Voilà. Eh bien, on est au-delà de ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un mal... qui n'est pas résolu, il n'y a personne pour essayer de s'en préoccuper. Et puis il y a surtout toujours cette ambiguïté de l'industrie du cinéma qui est à la fois publique, privée, et on ne sait pas en fait comment changer tout ça.
Merci en tout cas d'être venu nous en parler, Jean-Michel Dian.
Et merci à vous, Marie Sorbier, on va continuer ensemble sur le cinéma. Comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes qui sont présents en région ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec le réalisateur Laurent Canté. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes invité du 31e Festival Biarritz Amérique Latine, un festival que vous connaissez bien, qui est en France le festival de référence pour le cinéma latino-américain. Il propose 3 compétitions de films long-métrages, court-métrages, documentaires, et puis aussi de découvrir autrement la culture latino-américaine, avec des rencontres littéraires, des expositions, des concerts. Laurent Canté, vous avez été vous le président déjà de ce festival, c'était en 2018. Qu'est-ce qui vous lie au-delà du film dont on va parler, Retour à Ithaca aussi, mais qu'est-ce qui vous touche dans cette culture sud-américaine ?
D'abord parce que je la connaissais mal et que je l'ai découverte presque in vivo en voyageant un peu en Amérique latine, en comprenant progressivement les choses à travers l'expérience, mais aussi à travers la littérature, et puis certainement aussi grâce à une rencontre qui a été très importante pour moi, qui a été la rencontre avec Leonardo Padura, quand j'ai tourné un film à Cuba et qu'il a accepté d'en être le co-scénariste.
Alors justement, mercredi 28 septembre, il y aura une rencontre avec Leonardo Padura, organisée par le festival. Ce film que vous avez co-écrit avec lui est sorti en 2014, Retour à Ithaca. C'est un film que j'aime beaucoup, donc je suis heureux de pouvoir en parler un peu avec vous. Comment est-ce que vous en êtes venu à collaborer avec cet écrivain cubain, qui était mon invité la saison dernière d'ailleurs, le père du flic Mario Conde?
C'est justement, je pense, à travers ces 4 saisons que je l'ai rencontré, à travers justement les aventures de Mario Conde. Mais en fait, il a été un peu mon guide dans ma compréhension progressive de Cuba. J'ai eu l'impression qu'à travers ces personnages, à travers toutes les sensations qu'il décrit si bien, il m'a permis d'arriver à la Havane en ayant une espèce de familiarité déjà avec cette ville. Et ça m'a beaucoup touché qu'il accepte, du coup, après plusieurs rencontres, de collaborer à mon projet, qui d'ailleurs était au départ un peu, non pas une adaptation précise d'un de ses livres, mais en tous les cas, dont le point de départ peut se retrouver dans un de ses livres. Quoi.
Alors justement, aussi, Leonardo Padura, c'est un cinéphile, il avait déjà écrit des scénarios avant Retour à Ithaca. Quel a été son apport dans le travail? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble, tous deux?
Ça a été des très très longues discussions. Ça a été aussi des retours justement sur ses livres, sur ses personnages, où à chaque fois que je voulais lui suggérer quelque chose, me revenait une histoire qu'il avait déjà un peu abordée. Et il y avait un énorme plaisir à revisiter en fait un certain nombre d'idées fortes de son œuvre à travers le film.
Oui, c'est vrai que ce qui est très étonnant, si on connaît un peu les livres de Padura, c'est que dans ce film, Retour à Ithaca, Laurent Canté, on retrouve absolument l'univers de Padura et ses thématiques. Alors c'est vrai que Cuba et l'Amérique latine, hein, et là c'est en proie à toutes sortes de crises économiques, sociales, politiques, environnementales aussi, c'est un réservoir de récits. Tous ces éléments-là, toutes ces thématiques-là, elles résonnaient déjà fortement en vous, mais transposées à Cuba, ça donne encore autre chose.
Oui, et d'ailleurs se posait pour moi la question de la légitimité à aller raconter une histoire cubaine. Et c'est vrai que là, la présence de Leonardo Padura a été essentielle pour moi. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression aussi d'être un peu son porte-parole en faisant le film.
Et puis Cuba, qui tient évidemment un rôle central, et dans les livres de Padura et dans votre film, c'est aussi une beauté qui passe par la magnificence des paysages, mais aussi par cette ville de la Havane très particulière, belle dans sa ruine. Enfin, c'est toujours un peu compliqué de filmer ce genre de lieu. Quelles images vous avez voulu transmettre à travers votre film?
J'ai justement essayé, je pense, d'éviter tout ce qu'il peut y avoir de presque folklorique dans notre regard d'étrangers sur le pays. Et c'est vrai que concentrer toute l'action sur une terrasse comme ça qui domine la ville, qui domine ce Malecón, qui est quand même un lieu emblématique de la Havane, cette immense avenue qui borde la mer et qui en est à la fois la frontière et puis peut-être aussi l'ouverture, me semblait être le seul moyen de le faire. C'est-à-dire que j'avais pas envie de filmer les vieilles voitures. J'avais envie que si la musique intervenait, elle intervienne presque par effraction, comme ça, en venant brouiller presque le discours parfois, parce qu'elle arrive d'une fenêtre voisine. Voilà, c'est un peu ce qui m'a guidé dans l'écriture comme ça très concentrée du film.
Bien, merci Laurent Canté d'avoir pris ces quelques minutes pour évoquer avec nous et Cuba et Padura et ce très beau film Retour à Eta qu'on peut voir et revoir parce que tout ce qui s'y dit résonne différemment selon les moments de la vie. C'est important de revoir les films comme celui-ci. Bon festival à vous, ce 31e festival Amérique latine qui va se tenir du 26 septembre au 2 octobre. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne Eta, écoutée ou podcastée sur le site de France Culture ou l'application Radio France, émission préparée avec Aïssa Tundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier et Apolline Limosino.